Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante, églantine, Thierry, Sébastien, Laetitia, bonjour mes amis.
Bonjour Bernard Poirette.
Églantine émaillée ce matin, alors qu'on nage déjà pas mal dans la Coupe du Monde de football, eh bien vous souhaitez nous rappeler qu'il existe d'autres sports à l'affiche.
On a un peu tendance à l'oublier, mais je vous rappelle quand même que le 7 juillet prochain, c'est le lancement du nouveau Tour de France.
Je ne sais pas
comment vont faire les aficionados, mais entre cyclisme et foot, ils vont plus savoir où donner de la tête, alors que moi, je sais où diriger la mienne, vers les brocantes, pour trouver plein de bonnes affaires.
Ouais, alors, il va falloir nous expliquer quand même le rapport entre brocante et cyclisme. C'est quoi? Ah, si, acheter des vélos, remarquez,
des
moi, ça m'est déjà arrivé.
Course.
Alors, pas des vélos de course, non. Oui, il y en a beaucoup. Mais comme on part bientôt en vacances, on va chiner des vélos pliants.
Oh, c'est bien ça, j'en ai eu un quand j'étais gamin.
C'est
où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs?
Une marque anglaise extraordinaire.
C'était
qui s'appelle Brompton.
Ah non,
Brompton, oui.
C'est formidable.
Alors, moi aussi, j'en ai eu un quand j'étais petite et je regrette aussi de ne pas l'avoir gardé. Je me souviens de ce vélo avec sa charnière qui permet de le plier juste au-dessus du pédalier.
C'est super pratique pour ranger dans la voiture.
Exactement, surtout quand vous êtes une famille nombreuse et qu'il y a 8 vélos à ranger, vous imaginez, il valait mieux qu'il se plie. Ce que j'aime dans ceux qu'on retrouve sur les brocantes, c'est le style de ces vélos qui rappellent toujours nos bons vieux vélos Peugeot, malgré leur petite taille.
Oui, tout à fait.
Je voulais vous dire, faites attention, sur les brocantes, on a tendance à ne pas regarder d'assez près les petits vélos qui font penser à des vélos d'enfants, alors que souvent, ce sont des vélos d'adultes pliants.
Alors, vous dites Peugeot, mais il y avait d'autres marques. Je pense à Motobécane, par exemple, ou Columbia.
Oui, il y a aussi Manufrance, Pélissier, Raleigh. Il y a pas mal de marques.
Raleigh, les Anglais.
Il faut dire que le premier vélo pliant ne date pas d'hier. Il a été breveté à la fin du 19e siècle.
C'est pas vrai?
Oui, et il connaît son apogée dans les années 70. Moi, je le trouve ultra confortable. La selle est large, le guidon est tellement haut que même moi et mes 178 cm, j'arrive à me tenir droite quand même.
Mais côté entretien, si j'en achète un vieux comme ça, remplacement de pièces et tout ça, je vais y arriver?
C'est hyper facile.
C'est facile.
Franchement, c'est facile. Toutes les pièces se trouvent aisément. Les chambres à air, les pneus, câbles, patins de frein, c'est facile. Les selles aussi se remplacent sans problème avec des selles actuelles. Il n'y a que les jantes qui sont difficiles à retrouver. Aujourd'hui, les neuves ne s'adapteront pas sur ces vélos.
Pour gagner du temps, si je pianote sur Internet?
Moi, je ne vous le conseille pas trop parce que je trouve qu'un vélo, ça s'essaye. Il vaut mieux l'essayer avant.
C'est comme des chaussures.
C'est un peu ça. Et puis surtout, ça se trouve sans problème sur les brocantes ou les marchands spécialisés dans les vélos vintage, ce qui ne manque pas de nos jours.
Prix, c'est facile aussi ou c'est
violent? Franchement, non, c'est hyper facile. À partir de 50 euros, on trouve de très beaux modèles, mais dans l'état d'origine, donc il y a souvent un petit peu de bricolage à faire par-dessus. Avec 100 euros, vous pouvez vous offrir un Peugeot bleu ou blanc. Je précise les couleurs parce que si vous voulez un orange ou rouge, là, il faut rajouter quelques dizaines d'euros de plus. Un petit peu plus cher parce que c'est la mode du vintage et que l'orange et le rouge, c'est ultra vintage. Et pour un modèle qui n'a jamais servi mais qui reste ancien, il faut compter environ 300 euros.
Moi, j'ai acheté un vélo normal, pas pliable, sur une brocante que j'ai payé 25 euros, j'étais trop contente. Après, 100 euros pour le faire refaire.
Il faut savoir faire soi, parce que si vous le donnez à un spécialiste...
Oui, mais honnêtement, 130 euros, un beau vélo ancien, bien remis en bagage, ça va.
Parce que neuf actuellement, un très bon vélo de ville, confortable, etc., pas électrique, j'entends, c'est un coût d'au moins 400-500 euros, vraiment, pour avoir un super truc. Pour avoir un truc léger, efficace et performant. Thierry, Denis, l'été qui commence, c'est le temps des soirées que l'on passe dehors, bien sûr, avec des amis, pourquoi pas, entourés assurément de fleurs parfumées.
Oui, c'est des beaux moments de bonheur au milieu de douces fragrances. Alors, à ce gentil jeu, il y a une famille de fleurs vivaces qui est reine, celle des grands phlox d'Amérique du Nord.
Phlox,
c'est un drôle de nom, ça, les phlox.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Flamme en grec. Tant leurs fleurs sont effectivement flashy. Mais dans le langage des Indiens d'Amérique du Nord, le vrai nom est « Nos âmes sont unies ». Moi, je trouve que c'est plus joli, ça. Que je vous décrive un petit peu, ces phlox font un mètre de haut sur presque autant de large. Ça fait du gros bouquet. Chaque plante porte des centaines de fleurs qui sont regroupées en panicules, gros, un peu comme un pamplemousse.
Oui. Ah, mais c'est joli quand même. Elles portent un nom moche, mais c'est joli. Et ça sent bon.
Oui, ça sent délicieusement bon, surtout le soir, églantine. Et là, les couleurs sont merveilleuses. Le bleu ardoise du phlox Blue Paradise est fabuleux quand le soleil se couche. Et alors le rouge de Kirschenfürst, il est digne d'un prince de l'église.
Ça doit vouloir qu'elle dire quelque chose.
J'arrive même pas à le dire. Kirschenfürst. C'est un peu compliqué quand même, Thierry, à prononcer. J'espère que c'est facile à cultiver au moins.
Tout à fait. Au siècle dernier, toutes les grands-mères en avaient à la campagne. Ces phlox sont ultra résistants au gel.
Ah, ça c'est cool, on panique pas l'hiver.
Et alors, nos grands-mères savent aussi que les pousses de phlox sont un peu tendre au printemps.
Ça se mange?
C'est ce que j'allais dire.
Ah ouais.
Mais surtout, ce qui les mange, ce sont les limaces. Il faut faire la chasse. Fumier, compost et même engrais sont les bienvenus. En revanche, La mauvaise herbe, elle, elle doit être bannie. Bon, c'est un peu contraignant tout ça, mais la floraison nous récompense amplement.
Encore un petit secret, Thierry, pour réussir ces sublimes fleurs parfumées, là ?
Le soleil du matin est bénéfique.
Oui.
Il sèche juste la rosée, il stimule la floraison. En revanche, le soleil de l'après-midi assèche toute la plante. Mm-hmm. Donc, plantez vos phlox au soleil le matin, à l'ombre l'après-midi, mm-hmm. par exemple, au pied d'un mur exposé à l'est.
Et quel est votre phlox préféré ?
Le phlox amplifolia. En fait, c'est un phlox sauvage, ça n'est pas un hybride moderne. Mmh. Il est rose, il est costaud, il est sain, et si vous coupez ses fleurs fanées juste en dessous du capitulque, il fleurira et refleurira de la fin juin à octobre.
Et bien évidemment, ce conseil de taille de l'ami Thierry s'applique à tous ces grands phlox des jardins. Merci beaucoup Thierry. La suite, dans un instant, juste après la pause, Sébastien Demorand voit rouge ce matin. J'imagine que c'est une histoire de jeu de mots. Quant à Laetitia Nallet, elle visite des maisons et des appartements.
Incroyable. Oh là là,
vous avez des projets d'achat ?
Ah là, c'est trop bien.
Ça va être bien. À tout de suite. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Sébastien Demorand, que vous arrive-t-il ? Pourquoi me dites-vous que tout au long de ce week-end, vous allez voir rouge ? C'est une histoire de betterave, mais c'est pas de saison.
Mais non, Bernard, vous pensiez sérieusement que j'allais m'énerver ?
Bah, pourquoi pas, vous avez le droit.
Arrêtez, c'est mal me connaître, Bernard, je suis d'une placidité à toute épreuve.
Si vous avez à manger.
Si j'ai à manger,
si vous avez les crocs, c'est moins facile.
Faut me nourrir.
Si vous mangez de la saucisse avec du piment d'Espelette.
Par exemple, non, les amis, le rouge, c'est tout simplement la couleur, la thématique de mon week-end, des fraises ce matin, des tomates pour demain dimanche. En plus, je trouve qu'on est assez ton sur ton avec le rouge de RTL.
Ah, bien vu, bien vu. Moi, je vous ai déjà vu tout rouge quand vous vous énervez en parlant des fraises. Hein.
Oui, alors la consommation hors saison, les fraises industrielles. Mais là, je suis zen, parce que je sais, nos auditeurs savent qu'on est au cœur de la saison de la fraise française et qu'en cherchant bien, eh ben, on va trouver en ce moment des fraises abordables chez nos maraîchers indépendants qui, sur les marchés, vont vous proposer, par exemple, en ce moment, la délicieuse sifflorette, qui est aussi connue que la gariguette.
Et puis Sébastien, on en a déjà souvent parlé ensemble. Il y a la Darselect.
La Darselect, elle est géniale, Thierry. Moi, ce que je vous conseille tout bêtement, c'est de dialoguer avec vos producteurs de proximité, poser-leur les questions. Pourquoi vous avez telle fraise plutôt que telle autre ? Et puis, ils sont pas forcément beaucoup plus cher que les produits standardisés qu'on nous propose à longueur d'année.
Mais ça, c'est vrai.
Ça, c'est plutôt
vrai,
bien.
C'est
voilà.
Bah, alors, j'imagine qu'on prend des Darselect pour préparer quelque chose aujourd'hui.
Ouais.
Et ça va être facile ?
Ah bah oui, évidemment.
C'est jamais très compliqué avec
lui. Ah bah non, sorbet, coulis, fraisier, charlotte aux fraises.
Oula. Ça, c'est bon.
Non, oui, c'est très bon, mais c'est pas pour moi. Hein. J'en ai pas le talent. Bon, tout le monde aime et tout le monde sait faire une salade de fraises.
Oui,
on va évidemment l'arranger. Voilà. Alors, on prend pour 4 personnes, on va dire, une bonne grosse livre de fraises. Allez, 600, 650 grammes, 700 si vous voulez. Tout petit peu de sucre roux, un petit citron vert, un brin de basilic, un brin de menthe, une bonne huile d'olive et du poivre.
De l'huile ?
Bah oui, ça s'assaisonne, Thierry, c'est une salade.
Ah, mais vous allez le manger en entrée ?
Mais pas du tout, c'est un dessert,
bon.
Vous allez voir, c'est extraordinaire, vous allez comprendre. Okay. Les fraises, on les rince, puis on les équeute.
Pas l'inverse.
Exactement. En fonction de leur calibre, vous les coupez en 2 ou en 4.
Et
vous
c'est
les arrosez.
C'est l'arme et le jus de citron.
Alors là, le jus de citron vert, une petite cuillerée à café de sucre, 3-4 cuillerées à soupe de bonne huile d'olive, Thierry.
Oui,
2-3 tours de moulin à poivre, donc.
Après, je vais tout
touiller,
tout doucement.
Très délicatement,
doucement.
Pour ne pas casser les fraises, évidemment. On laisse reposer à température ambiante. Et au dernier moment, là, vous ajoutez basilic et menthe ciselée. Quelques feuilles, n'en faites pas trop. Et vous allez voir ce que ça donne. L'accord, huile d'olive, fraise, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je peux vous garantir que c'est énormissime. C'est accessoirement léger, de saison et fastoche. Ne me remerciez pas. Tout le plaisir est pour moi.
Pour une fois, c'est facile.
Mais c'est vachement facile à faire.
C'est génial, c'est la recette de salade de fraise pour l'été.
Mais malheureusement, aujourd'hui, vous êtes occupée à autre chose, Laetitia Nallet. Car aujourd'hui et peut-être demain aussi, d'ailleurs, parce que c'est le week-end pour visiter des maisons. Et je sens, je subodore que vous allez nous parler des journées Architecture à vivre.
Comme chaque année, c'est vrai, le magazine Architecture à vivre nous propose de pénétrer enfin dans des maisons qui nous font rêver, de découvrir aussi des appartements astucieux avec tous un point commun, l'intervention d'un architecte. Mmh. Et d'ailleurs, ce sont les architectes avec l'accord des propriétaires qui vous feront une visite guidée des lieux aujourd'hui et demain.
On peut enfin pousser la porte de toutes ces maisons qui nous font
fantasmer. Il y en a beaucoup,
hein.
500 maisons, donc vous allez pouvoir faire votre choix.
Ouais.
Comment il faut faire ? Il faut aller sur le site journée au pluriel à vivre.fr.
Mmh.
Vous vous inscrivez, le prix c'est 2 euros par personne.
Et c'est dans toute la France ?
Toute la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas forcément des maisons hyper luxueuses. Mm-hmm. Les architectes font souvent preuve d'ingéniosité pour rentrer dans les budgets. Par exemple, à Rezé, c'est en Loire-Atlantique, il y a une maison construite complètement fermée côté nord, parce que c'était le côté qui donnait sur la rue, et puis pas intéressant côté nord. Le but, c'était de pouvoir ouvrir la maison plein sud.
Mais ça veut dire quoi ? Dans les pièces côté rue, il n'y a pas de fenêtre ?
Non, il n'y a pas de fenêtre, parce que la subtilité, c'est que la maison est construite autour de plusieurs patios. Oh. Donc, pas de fenêtre côté rue, mais quand vous êtes dans la pièce, vous avez un immense mur vitré qui donne sur un patio intérieur. Si vous êtes du côté de Toulouse, là, je vous propose une petite maison avec une extension maligne et réussie. Là, les propriétaires, en fait, ils ont pu acheter un terrain qui était situé derrière leur maison. Mais alors, quand je dis terrain, c'était vraiment une bande de terrain étroite et longue. S'ils avaient fait des fenêtres pour l'ouvrir sur cette bande de terrain, bah, la baie vitrée aurait été très proche du mur, il n'y aurait pas eu d'entrée de lumière, c'était pas intéressant. Du coup, les architectes ont proposé d'agrandir la maison, de la pousser jusqu'au mur. Sauf que le toit de cet agrandissement, c'est une verrière qui s'ouvre complètement. Quand il fait beau, la pièce est à ciel ouvert. C'est juste incroyable.
C'est une verrière coulissante, donc.
Verrière complète. C'est ça, elle s'ouvre complètement. Il n'y a plus rien. Regardez. Une fois qu'elle est ouverte, on ne la voit quasiment plus.
Et on est en plein soleil.
Et là, en fait, la pièce, elle est à ciel ouvert. Vous avez le soleil qui rentre dans le salon. C'est juste génial. Ça, c'est une idée d'architecte qui est absolument super.
Absolument. Et pour les Parisiens, vous avez...
Alors, pour les Parisiens, j'ai une maison que vous avez peut-être remarqué déjà, Bernard, en vous baladant dans le 14e arrondissement. Parce que la façade est très particulière. Elle est plissée.
C'est quoi, c'est, on dirait un,
un accordéon. Moi, j'aime pas tellement
comme ça. C'est où ça ? Je la connais
jamais
pas.
Alors, c'est bizarre. Hein.
C'est vraiment un accordéon.
C'est, c'est vers Pernetti. On dirait un volet en accordéon. En fait, ce ne sont pas des volets, mais c'est une sorte de grillage métallique en résine tressée qui protège des regards extérieurs. Ça ne bouge pas, hein. C'est pas amovible, ça reste comme ça. Donc ça veut dire que de dehors, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont fait ça parce qu'en face, il y a un énorme immeuble qui a un vis-à-vis terrible. Et à l'intérieur, eh ben non, ça n'assombrit pas du tout la pièce. À l'intérieur, ce qu'on voit, c'est
ça,
une
structure... C'est la même chose.
Oui, ça, c'est quand on est à l'intérieur.
C'est très clair.
C'est une structure très, très légère qui laisse passer la lumière. Ça, c'est aussi une sacrée trouvaille. C'est incroyable.
C'est celle de Toulouse là qui me...
Ah ouais. Et pourtant, ça, c'est une petite maison. Ça coûte pas cher.
C'est la Loire-Atlantique, moi.
Voilà, journeesavivre.fr.
Aujourd'hui et demain, donc. Vous vous inscrivez, vous allez visiter des endroits incroyables.
2 euros
et
l'inscription.
2 euros, ça
c'est
vaut
super.
Le coup.
Canon. Mes amis, à demain.
Mais oui,
pour
à
de
demain,
nouvelles
demain.
Aventures
avec
radiophoniques.
Plaisir. À demain.
Et la suite de RTL Matin, Routard, Perrault et Quintin. Telle est la Sainte Trinité qui nous permettra de rejoindre sans souci le journal de 10h.